Dame Eliabel se reprit la première. Elle rafla prestement l'or laissé par le prévôt et, montrant un sourire de façade, elle dit d'un ton enjoué qu'elle tenait avant toute chose à ce que leur bienfaiteur partageât leur dîner. Elle commença de s'affairer, expédia ses enfants vers diverses tâches, puis, les réunissant à la cuisine, elle leur dit « Soyons sur nos gardes, c'est tout de même un lombard. Il faut toujours se méfier de ces gens-là, surtout quand ils vous ont rendu un service. Il est bien regrettable que votre pauvre père ait dû recourir à eux. Montrons à celui-ci, qui d'ailleurs a fort bonne mine, que nous n'avons point d'argent. Mais faisons en sorte qu'il n'oublie point que nous sommes nobles. » Par chance, les deux fils avaient la veille rapporté de la chasse assez de gibier. On tordit le cou à quelques volailles, et l'on put ainsi accommoder les deux services à quatre plats que commandait l'étiquette seigneuriale. Le premier service fut composé d'un brouet d'Allemagne, surmonté d'œufs frits, du noix, d'un civet de lapin et d'un lièvre rôti. Le second d'une queue de sanglier en sauce, d'un chapon, de lait lardé et de blanc mangé. Petit menu, mais qui tranchait toutefois sur l'ordinaire de bouillie de farine et de lentilles au gras, dont la famille se contentait le plus souvent. Tout cela prit du temps à accommoder. Du cellier, on monta de l'hydromel, du cidre, et même les dernières fioles d'un vin un peu piqué. La table fut dressée sur des tréteaux dans la grande salle, contre l'un des bancs. Une nappe blanche tombait jusqu'à terre, que les convives remontèrent sur leurs genoux afin de pouvoir s'y essuyer les mains. Il y avait une écuelle d'étain pour deux, les plats étaient posés au milieu de la table, et chacun y piquait avec la main. Trois paysans, qui à l'accoutumée s'occupaient de la basse-cour, avaient été appelés pour assurer le service. Ils fleuraient un peu le porc et le clapier. « Notre écuyer tranchant, » dit Dame Eliabel avec une mimique d'excuse et d'ironie, en désignant le boiteux qui coupait les rouelles de pain épaisses comme des meules sur lesquelles on mangeait les viandes. « Il faut vous dire, messire Baglioni, qu'il s'entend surtout à fendre le bois. Cela explique. » Guccio mangea et but beaucoup, les chansons avaient la main lourde, et l'on eût dit qu'il versait à boire aux chevaux. La famille poussa Guccio à parler, ce qu'il fit volontiers. Il raconta sa tempête sur la Manche, de telle façon que ses hôtes en laissèrent tomber la queue de sanglier dans la sauce. Il disserta de tout, des événements, de l'état des routes, des Templiers, du pont de Londres, de l'Italie, de l'administration de Marigny. À l'entendre, il était l'intime de la reine d'Angleterre, et il insista si fort sur le mystère de sa mission qu'on eût pu croire qu'il allait y avoir la guerre entre les deux pays. « Je ne saurais vous en dire davantage, car ceci est secret du royaume et ne m'appartient point. À faire étalage de soi devant autrui, on se persuade aisément soi-même. » Et Guccio, voyant les choses d'autre façon que le matin, considérait son voyage comme une grande réussite. Les deux frères Cresset, braves jeunes gens, mais pas très déliés de cervelle, et qui n'avaient jamais poussé plus loin que Dreux, contemplaient avec admiration et envie ce garçon qui était leur cadet et avait déjà tant vu et tant fait. Dame Eliabel, un peu à l'étroit dans sa robe, se laissait aller à regarder tendrement le jeune Toscan, et en dépit de sa prévention contre les Lombards, elle trouvait bien du charme aux cheveux bouclés, aux dents éclatantes, aux noirs regards, et même à l'accent zézayant de Guccio. Elle lui servait le compliment avec adresse. « Méfie-toi des flatteries », avait dit souvent Ptolémée à son neveu. « La flatterie est le pire péril pour un banquier. On résiste mal à écouter dire du bien de soi, et mieux vaut pour nous un voleur qu'un flatteur. » Mais Guccio buvait la louange comme il buvait l'hydromel. En vérité, c'était surtout pour Marie de Cresset qu'il parlait. Pour cette jeune fille qui ne le quittait pas des yeux en levant ses beaux cils dorés. Elle avait une manière d'écouter, les lèvres entr'ouvertes comme une grenade mûre, qui donnait envie à Guccio de parler encore. L'éloignement ennoblit facilement les gens. Pour Marie, Guccio figurait exactement le prince étranger en voyage. Il était l'imprévu, l'inespéré, le rêve trop souvent fait, inaccessible, et qui soudain frappe à la porte, avec un vrai visage, un corps bellement vêtu, une voix. L'émerveillement qu'il lisait dans le regard de Marie fit que Guccio la trouva bientôt la plus belle fille qu'il ait vue au monde, et la plus désirable. Auprès d'elle, la reine d'Angleterre lui semblait froide comme la pierre d'un tombeau. Si elle paraissait à la cour, et vêtue pour cela, se disait-il, elle y serait dans la semaine la plus admirée. Lorsqu'on se rinça les mains, chacun était un peu ivre et le jour venait de tomber. Dame Eliabel décida que le jeune homme ne pouvait pas repartir à cette heure et le pria d'accepter le coucher, si modeste qu'il fût. Elle l'assura aussi que sa monture avait été bien soignée et conduite aux écuries. L'existence du chevalier d'aventure continuait et Guccio trouvait cette vie exaltante. Bientôt, Dame Eliabel et sa fille se retirèrent. Les frères Cresset conduisirent le voyageur dans la chambre réservée aux hôtes de passage et qui semblait n'avoir pas servi depuis longtemps. À peine couché, Guccio coula dans le sommeil, en pensant à une bouche, pareille à une grenade mûre, sur laquelle il buvait tout l'amour du monde.